retour sur le feuilleton radio qui a animé, voire dynamité, l'antenne de Radio PFM au mois de novembre et décembre 2006. Je parlais de Nick la misère en verlan, un polar radiophonique écrit par les jeunes du foyer de la PJJ d'Arras. D'où vient ce projet? Comment a-t-il été réalisé? Mario a interviewé pour nous quelques-uns des protagonistes de cette sombre affaire. On commence avec Didier Andreau, coordinateur de l'assaut Colère du Présent.
On est à l'initiative du projet. Ça fait environ 5 ans qu'on travaille avec les jeunes et les éducateurs du foyer d'action éducative de la protection judiciaire de la jeunesse, donc en FAE de la PJJ. Ça s'est fait très, très simplement. Un éducateur un jour est tombé sur un règlement du concours d'écriture Colère du Présent, a fait travailler un groupe de jeunes, voilà, ils ont fait une production collective, ils nous l'ont envoyé. Nous, quand on a vu ça, on s'est dit c'est intéressant, on va leur proposer non seulement de les récompenser par des bouquins, mais aussi en leur offrant une rencontre avec un écrivain. Voilà, donc on a organisé une rencontre avec Frédéric Fajardi. Et puis là, dans la discussion, l'idée est venue de mettre en place un atelier d'écriture. Donc il y a eu un premier atelier d'écriture avec Thierry Maricourt, un deuxième avec Frédéric Fajardi, et puis la troisième année, on a proposé de travailler avec Ricardo Montserrat.
Donc je suis celui qui sait écrire, mais avant tout, je suis celui qui sait écouter. C'est-à-dire, il fallait, avec ce groupe de jeunes qui avaient plein de choses sur la patate, sur le monde, fallait trouver un moyen que ces choses-là sortent et s'ordonnent. Et j'ai pensé que la radio, donc le feuilleton radio, serait une bonne solution intermédiaire entre l'écriture, parce que toute histoire, il faut qu'elle soit écrite, même une chanson, il faut qu'elle soit écrite et bien écrite, et quelque chose de concret qu'il puisse... un bouquin, c'est concret un bouquin, mais c'est trop compliqué, en plus ils n'en lisent pas. La radio, ils l'écoutent, pas forcément la PFM, ils écoutent des radios le soir, la nuit, le matin, en voiture et tout ça, et... c'est un côté magique et c'est un côté en même temps très très concret. D'ailleurs, il y a du son, il y a de la chanson, il y a des mots et l'impression aussi que la radio, c'est un peu la liberté. On peut tout dire dans une radio. Et donc, j'aurais proposé cet espace-là et l'espace du polar aussi. Le polar, c'est intéressant aussi parce qu'un polar, c'est la même chose. On peut tuer père et mère, on peut tuer le monde entier. Il y a toujours un méchant, il y a plein de méchants, il y a des bons, il y a des gentils. Et cet espace-là, c'est celui que j'ai proposé et ils sont rentrés là-dedans. Chacun avec ses problèmes, c'est-à-dire la fille qui avait des problèmes avec la bouffe à apporter ses problèmes de bouffe, celle qui avait des problèmes avec sa mère, sa belle-mère, son beau-père à apporter, celui qui a des problèmes avec l'autorité en général les a apportés, le noir qui avait des problèmes avec, on ne laissait pas créer, on ne laissait pas s'exprimer, à raconter cela, chacun a raconté peu à peu à l'intérieur ses histoires, et les autres se sont emparés de ses histoires, bien sûr, et donc peu à peu, quelque chose qui était un peu comme ça, désordonné, a commencé à trouver un ordre. Avec, au fur et à mesure que les personnages posaient des questions, eh bien, des épisodes qui répondaient aux questions. Qu'est-ce qu'on fait d'un père qui vous a abandonné? Eh bien, on le fait revenir et on règle ses comptes avec lui. Qu'est-ce qu'on fait de l'autorité? Eh bien, l'autorité, on s'aperçoit que l'autorité, c'est bien, mais à condition qu'elle soit propre, honnête. Sinon, eh bien, on règle ses comptes avec elle. Donc, il y a à la fois un côté règlement de compte, comme dans tout bon polar, et un côté j'avance vers quelque chose. Je suis amoureux d'une fille, mais cette fille ne m'aime pas parce que je mène une vie de minable. Qu'est-ce que je fais? Eh bien, il y a deux solutions. Soit je disparais, soit je change. Je deviens un héros. Et comment on devient un héros? C'est pas évident. Comment on fait? Je rêve d'être célèbre ou de rencontrer des gens célèbres. Mais comment on le fait? Eh bien, la fiction permet de répondre à ces questions-là.
Ricardo Montserrat, écrivain qui participe à de nombreux ateliers d'écriture, notamment dans la région. Autre point de vue, celui des éducateurs du foyer d'action éducative, Yacine Christophe. Et Didier, toujours au micro de Mario.
Et alors cette histoire, c'est beaucoup de fiction ou beaucoup de réalité?
Bah, je crois que c'est tout mélangé parce qu'on s'est aussi nourri de ce qu'on vivait au quotidien dans le foyer. Et donc ça a été tout le temps mélangé. Il y a eu autant ce qu'on vivait nous à titre personnel, ce qu'on vivait à titre professionnel, ce que les jeunes vivaient dans le foyer, dans leur vie perso. Donc on arrive à un moment où on est peut-être incapable de faire la différence de ce qui est de nous et de ce qui est de la fiction.
Il y avait aussi, c'était l'époque où il y avait la commémoration de la libération des camps de concentration, et ça avait beaucoup marqué les jeunes, puisqu'il y avait beaucoup de reportages à cette époque-là à la télé, et c'est pour ça qu'il y a des personnages tels la maman d'origine juive, et on parle par exemple à un moment de la déportation, de toutes ces choses-là, et c'est parce que les jeunes l'avaient vu à la télé, qu'on en avait rediscuté ensemble, donc c'est ça allait au-delà du travail sur l'atelier d'écriture. C'était aussi on analysait un petit peu ce qui se passait dans l'actualité, quoi, en faisant des liens avec l'histoire aussi.
Et ce qui nous a permis aussi de faire ce travail-là avec les jeunes, c'est qu'on était sur un plan d'égalité dans l'atelier, et du coup on pouvait en discuter tout le temps avec eux en se mettant à leur place, puisqu'ils voyaient qu'on faisait le même travail qu'eux, et ce qui rendait l'échange plus facile.
Vous êtes allé loin dans vos idées. Comment ça a été posé, cette violence au sein du groupe ?
Ça s'est fait naturellement à partir des délires de chacun. Puis c'est avec des ados, ça aime bien tout ce qui marche à la télé, la violence, le sexe, ces choses-là. Et puis Ricardo, au lieu de les décourager, à la limite les gamins faisaient ça par provocation en disant vas-y, tu nous pousses à délirer, on délire. Mais Ricardo a pris le contre-pied en leur disant mais allez encore plus loin, c'est pas suffisant, c'est très bien, mais encore plus. Et ainsi, et pour en finir, on arrive à des situations abracadabrantes, et ça a créé.
Et vous, Didier, qu'est-ce que ça vous a apporté de suivre ce projet, de participer à ce projet ?
Ce que ça m'a apporté, c'est de changer aussi du quotidien du travail, et puis aussi, de voir les gamins sous un autre angle aussi, parce qu'ils nous usent à longueur de journée dans ce métier, et que c'est vrai que finalement, qu'est-ce qu'il y a de collectif et que ça va apporter, c'est je pense l'idée aussi. Enfin, on sait très bien, on voit au quotidien, souvent ils nous font rire, on dit mais on a de quoi écrire des bouquins dans ce qu'on vit au quotidien avec eux, dans les moments de joie, de tristesse, même des moments dramatiques. Et il y a toute une richesse qui est là, qui est inexploitée. Et grâce à Ricardo, en tout cas, ça a permis de découvrir leur talent, leur vie aussi, leur humour, ces choses-là. Et c'est vrai que on est fiers des gamins à ce niveau-là, quoi. Donc maintenant, tout n'a pas été simple. Ça a été du temps, beaucoup de temps, de la patience. Un chef d'orchestre, sans qui ça n'aurait pas pu se faire. Mais oui, comme le disait Christophe, je crois que les gamins, quand ils vont ressortir ça dans quelques années de leurs affaires, qu'ils vont écouter ça, ça va leur faire le plus grand bien, et eux-mêmes vont se sentir, parce que malgré leur apparence très provocatrice, ils manquent totalement d'assurance, et d'avoir fait ça, ils en seront fiers, et ça viendra de toute façon les aider à un moment ou à un autre, en tout cas plus davantage qu'en leur tapant dessus, et leur disant qu'ils sont pas bons, qu'ils sont peut-être que des racailles.
Didier Christophe Yacine, éducateur à la PJJ d'Arras. On enchaîne avec les protagonistes de ce projet, les jeunes du foyer eux-mêmes, Guillaume, Michael et Julien, encore et toujours au micro de Mario.
On a beau être en foyer, parce que les gens dehors, sur l'extérieur, ils se disent ouais, ils sont en foyer. Bon, on est en foyer, on est comme tout le monde en fait.
Comme dirait Sarkozy, on est des racailles.
Bon ouais, bon, on est à vue des gens, on est un peu comme ça, on est un peu des racailles, etc. Mais c'est pas vrai du tout, et ça montre bien qu'on peut faire quelque chose. Les gens, ils ont une vision de nous, mais avec ça, ça peut montrer. Bon, y a pas tout le monde n'écoute pas PFM, mais les gens qui écouteront, ils ont peut-être une autre image des foyers, et ils diront ces jeunes-là, ils ont quand même du potentiel, ils savent faire des choses, ils sont pas cons sur les bords. Et voilà quoi, c'est tout. C'est l'image du foyer, il faut que ça change, parce que c'est vrai que on a les gens, ils ont beaucoup de préjugés sur nous, mais on est comme tout le monde en fait. On a beaucoup de vécu, mais on est comme tout le monde.
Michael, donc toi, comment ça s'est passé pour toi cette rencontre avec Ricardo Montserrat ? Est-ce que tu as pu te lâcher toi aussi et dire des trucs que tu peux pas dire d'habitude ?
Au début, ça avait un peu du mal à passer. Mais disons que après ça allait tranquillement.
Tous les jeunes c'était pareil, au début c'était dur, mais après ça allait tout seul.
Ouais, bien sûr, des fois on voulait pas y aller, mais on avait pas la tête à ça et tout, mais on venait quand même à fond dedans.
On rentrait des cours aussi, donc vu qu'on rentrait des cours, c'était pas toujours évident de décorante, aller dans la pièce, se retrouver autour d'une table, devoir écrire, et puis rester 2 heures assis sur une chaise, c'est ça qui était pas évident, mais à la fin on est quand même fiers de ce que ça donne, et puis c'était des bons moments quand même, quoi. Il n'y a pas que des sales moments. Puis bon, l'ambiance elle était un peu tendue aussi entre tout le monde, entre les jeunes, entre les éducateurs, parce que derrière ça il y avait quand même le contexte du foyer, donc il y avait déjà des histoires aussi.
que c'est pas toujours simple de vivre en foyer.
Voilà, et la vie en collectivité.
Et ça nous a un peu rapprochés les uns des autres. Ouais.
Et toi, Julien, alors comment ça s'est passé pour toi cet atelier?
Moi, pour moi, ça m'a apporté beaucoup de bonheur quand même, parce que moi, en plus, j'étais mal à l'aise d'être dans un foyer, parce que j'ai toujours vécu seul avec ma mère, donc avec tous les autres jeunes, on s'est bien comporté à peu près comme des frères, quoi. On était tous solidaires, quoi. Et puis voilà, ça qui est bien, mais ce qui est encore mieux, c'est que depuis qu'on est sorti du foyer, chaque fois qu'on se voit dans la rue, on se parle bien, quoi. Voilà, qu'on garde les contacts quand même, quoi. C'est bien.
T'as l'impression de t'être libéré un peu dans le cadre de cet atelier ou pas?
Ouais, je me suis libéré. Ouais, c'est clair, parce que si ça aurait été, on aurait fait ça seulement avec les éducateurs. Je suis persuadé que la plupart des jeunes, ils n'auraient pas osé dire les choses qu'ils ont dit là. Et puis ce qui est bien, c'est qu'avant de commencer, il nous a bien prévenu qu'il nous laissait libre service, qu'on pouvait dire n'importe quoi. Puis voilà. Si ça aurait été strict, je suis sûr que le truc qu'on aurait fait là, ça aurait été vraiment nul, quoi. Là, comme il nous a laissé nous exprimer, c'est ça qui nous a donné la pêche. Et puis
Nicolas Hermy,
est-ce que ça vous a donné des idées?
Bah en fait, ouais, c'est bah on aime bien, j'aime bien tout ce qui est la radio, j'aimais bien participer à ça parce que c'est la radio, ça plaît à tout le monde, c'est pas tout le monde qui peut travailler dans une radio ou et ça donne des idées, ouais, ça pousse à faire, mais le problème c'est qu'on sait pas, il y a personne qui va nous dire tu peux faire.
Michael, est-ce que ça t'a donné des idées, ce projet?
Bah moi maintenant j'écris des textes de musique, surtout du rap, quoi, et j'essaie de m'améliorer au fur et à mesure, et quand je vois ce qu'on a fait là, je suis assez content du résultat. Et ouais, ça m'a donné plein d'idées, des textes.
Donc Julien, toi, est-ce que ça t'a donné des idées de participer à ce projet?
Ah ouais, ça m'a donné plein d'idées pour les idées, pour les choses à venir. Mais moi je l'ai, bah, du genre, vu comment c'était bien, j'ai décidé l'année prochaine de m'inscrire à la Star Academy.
Guillaume, Michael et Julien, quelques-uns des auteurs de ce feuilleton Nicolas Hermy dont on vous propose maintenant le premier épisode. Attention, oreilles hypersensibles, s'abstenir.
Il y a des jours où on a envie de crier.
Nicolas Hermy, un polar radiophonique à déguster saignant. Produit par l'atelier de création de la PJJ d'Arras, avec l'aide de Ricardo Montserrat, projet Colère du Présent, avec la compagnie des 400 éducateurs de la PJJ, l'équipe de Radio PFL, invité spécial, Soun. Nicolas Hermy, épisode 1, Zoo-Hôpital.
Laurie, passe-moi le décodanus, c'est le Brasilo.
Vous êtes sûr, docteur?
Non, mais tu ne vas pas m'apprendre mon métier. Tu n'es même pas infirmière, que je sache. Si j'ai fait appel à toi, c'est précisément parce que tu sais rester muette. En échange de ton silence, tu as droit à une opération gratuite chaque année, n'est-ce pas? Mais avant que tu ne ressembles à Sharon Stone, il y a du travail, hein? Compresse! Ciseaux! Pince!
Mais docteur, que
le
faites-vous?
Le cisaillon, maintenant! Admire-moi ça, ma petite. Tu as devant toi un spécimen rare. Compresse. Ouvre tes yeux et apprends ce que doit être la vraie chirurgie esthétique. Bistouri, pince. Cet enfant putain va payer sa dette à la société.
Je vous demande pardon, monsieur Défaut.
Le presse-couille maintenant. Pince. Compresse.
Mais docteur, mais qu'est-ce qui vous prend? Mais arrêtez, laissez-le.
Je ne veux pas que cet individu, tout chanteur de rap qu'il est, se reproduise comme un vulgaire rat d'égout. Par conséquent, je vais greffer son sexe sur un de nos clients qui en a grand besoin. Et à la place, je vais lui modeler une magnifique petite chatte. Aide-moi! Éponge, tu ne vois pas que ça pisse le sang!
Mais qu'est-ce qu'il vous a fait?
À moi, rien. Mais à la société, beaucoup. Avec ses chansons, son arrogance, sa sexualité débridée. Cette racaille insulte nos valeurs éternelles.
arrêtez, docteur. Je veux plus rien entendre. Je veux pas voir ça.
Reste, Laurie. C'est un ordre.
Non, je vais appeler la police.
Tu oublies que je ne suis pas seulement chirurgien, ma petite, mais le maire de cette ville. La police, c'est moi.
Je m'en fiche. Je vais quand même les appeler.
Lâche ce téléphone. Bordel de merde. Pointe ce téléphone.
Lâchez-moi.
Aïe. C'était le mordrait, la chienne. Tu n'aurais pas dû faire ça. Prends ça. Espèce de boudin. Je vais te découper en morceaux. Et tes morceaux, je vais... Tcha-tcha. Ça me donne une idée. Tu vas m'être plus utile morte que vivante, ma grosse. Il faut que j'appelle du clan. Merde, j'avais oublié celui-là.
Dans le prochain épisode de Nick Lazermi.
Faites preuve d'imagination, mon petit du grand. Une jeune fille blanche disparaît. Un négro camion à mort, très vu dans le caniveau. L'addition sera vite faite. J'ai promis à mes partenaires de vider la cité avant 2008. Tous les arrêtés d'expropriation sont prêts. Le dossier financier est en piton. Baby, don't you know I got you? What do you need? Baby, don't you know I got you?